Nous allons lire dans le livre des Lamentations de Jérémie. Lamentations de Jérémie. À partir du verset 14. Lamentations chapitre 2, verset 14. Il est écrit ceci. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des messages, des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent. Ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent. Ils grincent des dents, ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions, nous l'avons atteint, nous le voyons. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié, il a fait de toi la joie de l'ennemi, il a relevé la force de tes oppresseurs. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répands jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun répit et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vois, Éternel, regarde que tu as ainsi traité. Qui tu as ainsi traité? Fallait-il que des femmes dévorent le fruit de leurs entrailles, les petits enfants, objets de leur tendresse? Que sacrificateurs et prophètes soient massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère. Tu as égorgé sans pitié. Voilà les lamentations de Jérémie. C'est les prières que Jérémie adresse au Seigneur en disant, aie pitié, ton peuple souffre beaucoup, souffre trop. Ton peuple est détruit. Et Jérémie crie à Dieu. Et là, il dit que même des femmes commencent à manger leurs enfants tellement il y a la souffrance. Et il cite un verset, le verset qui nous intéresse le plus, le verset 18. Leur cœur crie, verset 18, leur cœur crie vers le Seigneur, mur de la fille de Sion. Répands jour et nuit des torrents de larmes, ne te donne aucun répit. Ça nous rappelle quoi, ce verset? Ça nous rappelle un autre passage dans Ésaïe 62, 6 à 7, où le prophète Ésaïe, il dit, sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui vont crier jour et nuit à Dieu. Donc, c'est le même esprit. Là, c'est pas Ésaïe, là, c'est Jérémie. Nous pouvons voir que la Bible a été écrite par la même personne, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a utilisé que des humains, mais les humains n'ont rien à voir, et ils ont été utilisés, mais c'est le même message. Là-bas, Ésaïe dit, sur tes murailles, j'ai placé des gardes qui vont crier jour et nuit, jusqu'à ce que l'Éternel rétablisse Jérusalem dans sa gloire. Et là, la même chose, on voit qu'est-ce qui est écrit au bout. Tous les passants battent des mains sur toi, verset 15. au début. Il siffle, il secoue la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Est-ce que c'est ça? Et les passants secouent la tête. Et l'ennemi, les gens qui sont de l'ennemi pensent qu'ils ont eu tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents. Ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint, nous le voyons. Donc, est-ce que c'est ce que le Seigneur veut? Non, mais le Seigneur laisse faire quand les humains ne veulent pas de lui. Le Seigneur laisse faire les choses et ses jugements s'abattent. Et là, Jérémie est en train de crier à Dieu, mais maintenant il appelle d'autres personnes. Ces personnes-là, il les appelle murs de Jérusalem. De la même manière qu'Ésaïe dans 62, il appelle d'autres personnes aussi. Il dit, sur tes murailles, j'ai placé des gardes. Nous voulons parler de l'intercession forte, celle qui vient des entrailles, celle qui vient du fond du cœur, l'intercession pour que Dieu rétablisse sa vérité, sa justice au milieu de ses enfants, que l'on commence à redire encore que c'est des chrétiens, c'est-à-dire avec la vraie étymologie, c'est-à-dire des gens qui ressemblent à Jésus. Ils amènent quelque chose d'autre. Même si on n'est pas d'accord sur tout ce qu'ils disent, mais ces gens-là, ils amènent quelque chose d'autre. Ils sont différents. Ils brillent. Ils ne trompent pas. Ils ne mentent pas. Ils sont droits. Quand est-ce que ce jour-là va revenir à nouveau? Et c'est ça le pleur de Jérémie. Il dit, mais regarde l'état de ton peuple. Il y a tellement la souffrance que les femmes mangent leurs propres enfants. Et il appelle le mur. Il est mur de Jérusalem. Un mur ne parle pas. Donc il s'agit bien des gens qu'on appelle murs. Donc c'est des gens qui sont intéressés par la ville, qui ne sont pas égoïstes, mais des gens qui voient l'œuvre de Dieu dans son ensemble, qui ne se voient pas que eux tout seuls, qui ne pensent pas à répéter l'humanité. Vous savez, c'est quoi répéter l'humanité? Manger, dormir, boire, avoir un travail, se marier, avoir des enfants. Il y a des gens qui ne pensent pas qu'à répéter l'humanité. Il y a des gens qui pensent qu'à ça. Et ils appellent Dieu à les aider à répéter l'humanité. À manger, boire, se marier, avoir des enfants. Répétition de l'humanité. Mais Dieu, le Seigneur dit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le prophète, il appelle le mur. Il dit, mur de la fille, verset 18, mur de la fille de Sion, répands jour et nuit des torrents de larmes, ne te donne aucun répit. Vraiment, c'est étonnant comment ça peut se ressembler comme ça avec Ésaïe 62. On va lire ça, Ésaïe 62. Ésaïe 62, 6 à 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et là-bas, on a lu, il n'y a point de répit pour le mur. Et c'est la même chose ici. Point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche. Donc, ils doivent laisser aucun relâche à Dieu non plus, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Et c'est le même sujet. Et là, on nous parle encore de Jérusalem qui est brisée, mais Jérusalem représente l'Église. Parce que quand on lit dans Apocalypse, la nouvelle Jérusalem est composée de de piliers. Et sur ces piliers-là, il y a les noms, le fondement de ces piliers, il y a les noms des 12 apôtres. Donc quand on parle de Jérusalem, pour nous les chrétiens, c'est la gloire de Dieu dans son Église. Et là, on voit le même texte pratiquement. Ésaïe, Jérémie, point de répit. Donc je reprends en même temps Lamentations chapitre 2. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun répit et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Voilà. C'est la même chose qui est réclamée ici dans Ésaïe 62. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Amen. Le Seigneur parle à un mur. Il parle aux gens qui doivent être sur la muraille. Il a dit, il veut dire, n'arrêtez pas. Continuez à crier à Dieu pour qu'il change les choses. Ne tombez pas dans le contentement. Ne vous dites pas, ça y est, on a fait de bonnes choses, on a fait de grandes choses. Non! Regardez la réalité. La réalité, c'est l'image qui est donnée de Dieu par des multiples personnes qu'on appelle chrétiens. Beaucoup, on les appelle chrétiens, mais quelle image s'est donnée à la télévision de Dieu? Quand on fait les reportages sur les églises, quelle image s'est donnée? Vous êtes témoin de ce reportage où on voit clairement que qui dit Dieu dit demander l'argent aux gens. Quelle honte! Alors nous devons soupirer après la production d'un nouveau peuple qui enfin va vaincre l'argent, qui enfin va vaincre la soif de pouvoir. Les apôtres n'étaient pas dans la soif de pouvoir. Paul, même s'il était utilisé puissamment par le Seigneur, a voulu s'humilier, retrouver les anciens apôtres pour recevoir la bénédiction de leur part. Il n'a pas lutté avec eux. Il a été simple. L'apôtre Pierre, même si c'est celui sur qui Jésus a fait des grandes prophéties, il a dit dans une de ses lettres, ce sont des choses que Dieu, que Paul explique avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il reconnaît par là que Paul a reçu une grande sagesse, des grandes révélations de la part de Dieu. Dans la simplicité, ils ont travaillé, mais avec puissance, de sorte que quand Tabitha est mort, on a su que Pierre était à Joppé. On est parti le chercher pour qu'il ressuscite Tabitha. On voit combien l'Église pouvait vivre dans la communion avec Dieu pour être sûr qu'en allant chercher Pierre, Pierre ressusciterait ce mort. On a vu dernièrement un spectacle navrant de désolation au Congo-Kinshasa. Une chanteuse qu'on dit chrétienne, mais elle était en réalité du monde, parce que l'étiquette c'était chrétien, mais elle faisait tout comme les gens du monde. Et puis, elle meurt. Au lieu de voir bien que c'est le jugement de Dieu, il y a encore d'autres qui se prétendent des chrétiens qui disent, je vais aller la ressusciter. Et ça n'a pas marché. Mais le spectacle qui est donné aux païens, quand on voit ça, quelqu'un du mur doit avoir son corps irrité, tout son être irrité. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va dire de Dieu dans ces affaires-là? Les païens rigolent. Le deuil est devenu un sujet de polémique entre l'association des musiciens chrétiens qui voulaient organiser le deuil. Les païens veulent organiser le deuil, c'est ça qui prouvait qu'elle était des païens. Vous savez, il y a une sorte de fable qu'on a lu quand on était petit, quand la chauve-souris est morte, donc on ne savait pas est-ce qu'elle faisait partie des rats ou des oiseaux. Donc c'est ce que les gens ont subi. Et cette femme-là, parce que quand elle meurt, les païens la réclament. Et quand on dit païens, les satanistes la réclament, comme faisant, comme leur sœur, et les chrétiens réclament aussi la même personne. Et le spectacle est montré devant tout le monde. Les chrétiens disent, c'est notre sœur. Les païens disent, mais non, quand elle était vivante, elle était tout le temps avec nous. Tout ça, qui va organiser pour recevoir de l'argent du gouvernement? Spectacle devant les païens, bien-aimés. Nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir une maison, une voiture, ou même quatre voitures et quatre maisons, et vivre heureux un chrétien en voyant tout ça. On ne peut pas. Vous croyez que quand Jérémie là se lamente, lui il manquait de quoi manger? Lui il ne manquait pas de quoi manger. Il ne manquait pas de vêtements. Il se lamente en voyant le peuple de Dieu comment il est. Lui il ne manquait pas. Mais il n'est pas bien, il ne peut pas être bien quand son Dieu est déshonoré, lui ne peut pas être bien. Et Jérémie en appelle à la muraille. Dire, mais arrêtez, muraille, réveille-toi, mur, réveille-toi. C'est la même réclamation d'Ésaïe. Il dit, mais où sont les gardes qu'on place sur les murailles pour crier à Dieu pour que les choses changent? Est-ce que, vous savez, aujourd'hui, je veux parler au mur. Est-ce que tu entends l'appel de Dieu qui te dit, mur, réveille-toi. Oublie le monde. C'est l'appel que Ésaïe a fait. C'est l'appel que Jérémie a fait. Quelqu'un va me dire, mais nous n'avons pas les moyens, c'est faux. Nous avons la prière. Car ces prophètes disent, priez. Il dit, mur de la fille de Sion, répands jour et nuit des torrents de larmes, ne te donne aucun répit et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Nous devons refuser la prière traditionnelle. Nous devons refuser les cultes traditionnels où tu ne sais pas pourquoi tu es là. Mais tu te dis, si je ne viens pas, on risque de s'inquiéter pour savoir pourquoi je ne suis pas venu. Même si les raisons de départ n'étaient pas bonnes, mais quand tu es là, en présence de Dieu dans la prière, tu dois parler avec lui. Je te donne un sujet. C'est l'état du nom de Dieu sur la terre. C'est ça le sujet. L'état des enfants de Dieu. L'état des groupes chrétiens. C'est ça le sujet. La gloire de Dieu. C'est ça le sujet. Parce que là, ils disent, Jérusalem doit être rétablie dans sa gloire. Joie de toute la terre. C'est beau la Bible, puisque cette phrase-là, joie de toute la terre, nous retrouvons ça dans le psaume 48. Il y a un de nos frères qui nous avait chanté ça ici. Bless is the Lord. Bless the to be praised in the city of our God, in the mountains of his holiness. Beautiful for situation. On va lire psaume 48. The joy of the whole world. La joie de toute la terre, Jérusalem. Psaume 48. Un chrétien doit être la joie des gens qui sont autour de lui. Doit être la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Psaume 48. Ça ne veut pas dire qu'il sera accepté dans tout, mais il sera la lumière. Psaume 48, psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Amen. Belle est la colline, joie de toute la terre. Dans la ville de notre Dieu, c'est quoi cette ville? C'est Jérusalem. Comment tout le temps les serviteurs de Dieu parlent de Jérusalem dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une ville physique dont il est question. Il s'agit de toi et moi, les enfants de Dieu. C'est nous, c'est l'Église de Dieu, conformément à Apocalypse, qui représente Jérusalem aussi. Même la Jérusalem physique aujourd'hui, quand vous allez partir là-bas, vous allez comprendre cette phrase-là. Joie de toute la terre. The joy of the world. Vous allez voir les Chinois, les Arabes, tout le monde quand il est à Jérusalem. C'est comme si il a réglé ce problème. Parce qu'il est à l'endroit, mais une ville petite comme Montpellier, qui n'a pas de richesse, qui n'a rien du tout. Il n'y a pas de fleuve. Mais c'est parce que Dieu est là. Dieu a choisi cette ville-là. Mais ça, c'est rien. C'est petit par rapport au choix que Dieu a fait de toi et moi, être son enfant, son habitation physique. Alors, Jérémie, Ésaïe, qui disent maintenant mur? Les gens de la muraille, réveillez-vous. Dieu a besoin de vos prières. Dieu a besoin de vos gémissements. Dieu a besoin de votre colère. Je ne parle pas de la colère méchante, je parle de la colère de voir que les choses ne se passent pas comme Dieu l'a dit dans sa parole. Dieu a besoin de votre tristesse. Je ne parle pas de la tristesse mélancolique. Je parle de la tristesse, de la souffrance de voir les choses qui ne se font pas comme Dieu a dit dans sa parole. Je parle de ces choses-là. Dieu a besoin de gémissements, de pleurs pour dire, des gens qui vont dire non, 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 ça ne doit pas se passer comme ça. Et qui vont faire quoi? Qui vont parler à Dieu. Mais ça passe par une prise de conscience. Une prise de conscience du fait que tu dois être à part. Tu ne dois pas chercher Dieu pour qu'il t'aide à répéter l'humanité. Acheter des voitures, des maisons, te mettre en sécurité. Comme tout le monde, tu répètes l'humanité. Non, 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 non. Nous devons chercher la gloire de Dieu. Cette gloire-là qui a fait dire à Jésus, je vous envoie, ne prenez ni or, ni argent. Même qui est à vous, ne prenez pas. Allez comme ça. Et ils sont partis les mains vides. Même pas avec leur propre argent. Et quand ils reviennent, Jésus leur dit, mais quand je vous ai envoyé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Non. C'est ça la gloire. Alors que tout ce qui est mathématique, sécurité sociale, ce n'est pas la gloire, c'est humain. Mais Dieu veut nous faire entrer dans la dimension de gloire. Mais cela n'est possible que lorsqu'on recourt à la prière. Je ne parle pas de la prière rituelle, traditionnelle, où on veut prier parce que on veut se sentir bon chrétien. Non, on doit prier parce que on est du ciel. On n'est pas des gens de la terre. On est des gens du ciel. Et la respiration du ciel, c'est la prière. Donc, pour vivre cette partie-là, personne du ciel, c'est la prière qui permet ce lien-là, que tu expérimentes le fait que tu es du ciel. Tu vas voir des choses que les gens de ce monde ne vont pas voir. Tu vas voir les choses à l'avance. Tu vas accomplir des exploits sans comprendre, parce que tu es branché au ciel. Et tu es branché par la prière. Combien de fois ne sommes-nous pas fatigués physiquement? Combien de fois ne sommes-nous pas malades? Combien de fois nous ne sommes pas assénés par des mauvaises nouvelles? Il n'y a que la prière qui va nous permettre d'être au-dessus de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est comme si on suppliait les gens de prier. Ce n'est pas normal. Alors que c'est dans leur intérêt même. Le problème, c'est quoi? C'est que les personnes, les gens, ne sont pas branchés à la vision divine. C'est pourquoi ils ne voient pas la gloire de la prière. C'est pourquoi ils ne voient pas l'intérêt de la prière. C'est pourquoi c'est dur. Parce qu'ils n'ont pas saisi ce que la prière peut leur apporter. Bien, mais quand on dit dans Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu, vous le verrez s'accomplir. Si vraiment quelqu'un croit en ça, est-ce que toi tu peux le pousser vraiment à prier? C'est parce que vite, rapidement, nous revenons homme physique. Nous ne croyons que ce que nous touchons. Nous ne croyons que ce que nous construisons. Nous avons du mal à penser que c'est Dieu qui nous donnera tout. C'est pourquoi il faut toujours qu'on rappelle aux gens, il faut prier. Mais est-ce que c'est normal? Ça, c'est la preuve qu'il y a une incompréhension quelque part. Et nos bien-aimés, finalement, ils ont compris qu'ils doivent appeler le mur. Puisque quand ils appellent toute la population ne réagit pas, ils appellent le mur. Et aujourd'hui, je vais appeler le mur de Dieu. Si tu as au fond de toi le souci de Dieu, tu es le mur de Dieu, tu es mur. Tu fais partie des gardes de la muraille. Réveille-toi. Ne te laisse pas affaiblir par l'atmosphère, hein, l'ambiance des gens qui toi t'entourent, des chrétiens qui nous entourent. Sortons du monde. Sortons de la logique de la répétition de l'humanité. Cherche les intérêts du Seigneur. Si tu cherches les intérêts du Seigneur, tu prieras. Mais si tu ne cherches pas les intérêts du Seigneur, tu auras du mal à prier. Pourquoi? Parce que avec l'intelligence humaine et la force humaine, on peut être satisfait des choses qu'on obtient sur la terre. Les gens qui sont footballeurs, ils gagnent parfois 250 000 euros le mois. Il y en a qui, les moins payés dans les premières divisions des pays, c'est dans les 20 000 euros par mois. Mais c'est des gens qui peuvent dire qu'ils n'ont pas besoin de prier puisqu'ils ont 20 000 euros par mois. Je dis bien les moins payés. Donc ça, c'est une preuve que on peut être satisfait par ce que l'homme fait. Les gens qui sont députés, ils se retrouvent parfois avec 15 000 euros le mois, avec tous les avantages réunis, le cumul de mandats, le cumul de postes. Les gens qui sont fonctionnaires, qui touchent dans les 7 000 par mois. Mais c'est des gens qui sont satisfaits par ce qu'ils obtiennent. Et Satan veut pousser le chrétien à chercher l'équilibre, la satisfaction par ce qu'il peut construire lui-même. C'est une erreur. Ce n'est pas mauvais d'étudier, c'est bien d'étudier. Mais quand nous étudions, c'est pour être une bénédiction entre les mains de Dieu. Et pour l'humanité, pour nous-mêmes, pour Dieu. Quand nous travaillons, c'est pour être lumière du monde. Quand nous gagnons beaucoup d'argent, c'est pour être lumière du monde. Ce n'est pas pour cette terre, parce que cette terre sera tout détruite. Mais la majorité n'a pas compris ça. Alors Dieu appelle la petite muraille, le petit mur. Toi qui as compris que ce que Dieu veut, c'est que sa Jérusalem retourne dans sa gloire, alors oublie le monde et commence à crier à Dieu. Oublie le système. Tu peux venir au culte, tout le monde danse, tout le monde chante. Mais si tu sens en toi que tu le fais mécaniquement, tu t'arrêtes. On ne vient pas faire de la mécanique ici. Si tu sens que tu fais comme tout le monde, ça vient, tu bouges, tu t'arrêtes. Tu te concentres sur Dieu. Tu te remémores les versets qui parlent de Dieu. Il est comment? Fais comme Gédéon. Dieu lui apparaît pour lui dire, mais tu es un vaillant héros. Gédéon dit, ah, mais si j'étais vaillant, regarde là. Regarde la situation. Mais nous, on est là dans les champs. Nous sommes les vainqueurs. Mais oui, mais Gédéon lui a dit, Gédéon, il a été clair avec Dieu, mais comment je suis vainqueur si je vois tout ce que je vois là? On est esclave des Madianites et toi tu m'appelles vaillant héros. Il faut questionner Dieu, il faut discuter avec lui, c'est ça la prière. La prière n'est pas une formule, c'est une discussion, un échange. Et puis dans cet échange-là, il y aura des moments où tu vas réaliser que tu es prince. C'est un échange qui peut être difficile. C'est un échange qui peut être, qui peut se traduire en pleurs, en gémissements, mais c'est aussi un échange qui peut produire une force qui dépasse la force des chars, des combats, des fusées, des missiles, parce que tu es maintenant assis, tu réalises, parce qu'on l'est en esprit, on l'est théoriquement, mais quand Dieu te fait réaliser que tu es vraiment assis avec Jésus-Christ au ciel, là c'est différent. Tu réalises, toi, et c'est là que tu peux dire à une montagne, déplace-toi, ça se déplace. Parce que tu sais qui tu es. Le problème est celui-là. Quand le serviteur, dans 2 Rois chapitre 6, quand le serviteur d'Élisée se plaint auprès d'Élisée pour dire, mais nous sommes environnés d'ennemis. Nous sommes entourés d'ennemis. On va faire comment? Élisée a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le camp adverse. Et Dieu a ouvert les yeux du serviteur. Il s'est rendu compte que la montagne était remplie d'anges fumant, rempli de feu. Il s'est calmé tout de suite. Il s'est calmé. Parce que il a expérimenté dans quel camp il était. Il a expérimenté ça. Et il s'est calmé tout de suite. La prière peut être dure. Parce qu'on se lamente. On gémit. On crie. Mais à un moment donné, Dieu va te faire réaliser la situation. Maintenant, quand tu sors de la prière, voilà, là, tu peux dire à la montagne, allez, déplace-toi. Tout le monde tremble, toi, tu trembles pas. Quand ces gens-là, ces ennemis étaient là, Élisée n'a pas prié, mais il voyait, il savait qu'il était entouré. Pourquoi? Lui, il le savait et pas son serviteur, parce que lui, c'était un homme de prière. Il parlait beaucoup à Dieu. C'est pourquoi notre frère Paul dit prier sans cesse. La prière peut être dure. On n'en disconvient pas. Mais on doit faire recours à ça. On doit gémir, parler à Dieu, discuter, dire à Dieu notre faiblesse. Vous savez le chant qu'on chante? Et je lui raconte ma faiblesse. Le psaume 42. Je lui raconte ma faiblesse. Quand mon esprit est abattu, je lui parle. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, il parle maintenant à Dieu. Et quand il sort de ce temps-là, il sort un homme fort. Les pleurs, c'était au début, mais à la fin, c'est la force qui vient. Mais les prières sont de moins en moins sincères. Elles sont de plus en plus mécaniques. Et tout ce qui est mécanique perd du goût. Et petit à petit, on se refroidit. Nous devons devenir, faire partie du mur. Vous savez, il y a des gens qui vont dire, ah, moi, Dieu ne m'a pas choisi mur. Non, Dieu appelle tout le monde à être dans le mur. Maintenant, quand je dis je parle au mur, je parle à ceux qui sont déjà dans le mur. Mais toi aussi, tu peux entrer dans le mur. Sortir du monde. Quand je dis sortir du monde, c'est quoi? Arrêtez de chercher à répéter l'humanité. Arrêtez de chercher des projets humains. Dieu lui-même s'occupe de ça. Il dit, cherchez le royaume des cieux. Moi, je vous donnerai le reste que les gens cherchent. Moi, j'ai eu un travail sans l'avoir voulu. J'ai même prié pour qu'on ne me prenne pas. Mais Et j'ai prié pour que je ne retrouve pas mon diplôme, comme ça on ne va pas me prendre. Mais en cherchant seulement une heure, alors que deux mois avant, j'avais cherché pendant des jours, je n'avais pas vu mon diplôme, je cherchais, je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas pourquoi, j'ai oublié pourquoi. Mais quand il a fallu fuir ce travail-là, j'ai cherché deux heures, j'ai retrouvé déjà. J'ai dit, Seigneur, tu m'y contrains, j'y vais. Mais je ne voulais pas de ça. Dieu donne tout ce qu'on veut, il peut donner. Il veut qu'on s'intéresse à son royaume. Le reste, c'est facile pour lui. Parce que, dites-vous bien une chose, ce que les païens ont, c'est un cadeau de Dieu, que personne ne vous trompe. C'est Dieu qui leur donne, hein? Parce que Dieu peut tuer les gens. Tu peux dormir et tu meurs. Donc quand un païen est en bonne santé, il court vite, c'est Dieu qui permet. Le Seigneur peut arrêter ça. Donc s'il peut donner à toutes ces personnes-là, il peut nous donner, mais ce qui intéresse Dieu, c'est la construction éternelle. C'est la construction éternelle. À quoi ça sert qu'il se focalise sur quelque chose qui va disparaître? Lui, il insiste, il se focalise sur les choses éternelles. Si nous devons être des gens de prière, nous devons saisir ces choses. Si tu ne saisis pas ça, tu ne vas pas prier. C'est une réalité. Pourquoi les gens ne prient pas? Parce qu'ils n'ont pas saisi Dieu. Ils n'ont pas compris Dieu. À un moment donné, ils ont les voitures, ils ont les maisons, ils ont les enfants, ils ont le mariage. Et ils ne savent plus prier pourquoi. Parce qu'au fait, leur prière tournait autour de la répétition de l'humanité. Maintenant, quand tu dis, viens, on va prier. Ah, et c'est lourd. Parce qu'il ne sait pas, il va dire quoi? Il a tout. Et il sait que ce qu'il peut demander, bon, Dieu n'est pas trop pour ça. Il ne peut pas demander non plus une peau comme Michael Jackson. Donc, c'est que peut-être que lui, il veut. Mais il sait que ça, est-ce que Dieu va accepter de telles prières? Lui-même, il est conscient que Dieu ne veut pas accepter de telles prières. Il vient trouver la meilleure coiffeuse au monde. Donc, il sait que ce genre de prière. Donc, il n'a plus, il ne sait pas quoi dire. Parce que finalement, ce centre d'intérêt sont soit vains, soit accomplis déjà. Et quand on dit prier, il ne sait plus. Il y a même quelqu'un qui m'a dit en face. Moi, je préfère dire mes besoins à la maison parce qu'à l'église, tout le monde prie Dieu. Dieu va exaucer qui? Donc, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Une telle personne, à un moment donné, la prière va devenir sans goût parce que, après avoir beaucoup demandé pour lui, sans obtenir, il ne va plus avoir envie de prier. Parce que ces prières ne tournent pas autour de la gloire divine, de la nature divine, de vivre le ciel sur la terre. Parce que notre prière, c'est ça, de tous les jours, vivre le ciel sur la terre. Parce que si tu ne vis pas le ciel sur la terre, en tant que chrétien, tu ne peux pas tenir. Tu vas être mangé progressivement. Donc notre prière de tous les jours, c'est de dire à Dieu comme à Gédéon, « Oui, mais tu m'appelles vaillant, tu m'appelles enfant de Dieu. » Et c'est quoi? Moi, je suis fatigué, je suis dépassé par telle chose. Et tu commences à discuter avec lui. Tu m'appelles enfant de Dieu, mais je n'ai même pas envie de te louer. Seigneur, change mon cœur. Enlève de moi le souci qui m'empêche de te louer. Enlève de moi le manque de foi qui m'empêche dans ces difficultés de voir ta gloire. Il faut être clair avec Dieu. Tu m'appelles mon enfant. Mais voilà, moi je ne sais même pas te dire merci. Voilà, moi je ne sais même pas me sacrifier pour toi. Mais dis-lui la vérité. Raconte-lui. La prière doit devenir le moyen c'est le moyen plutôt de vivre le ciel sur la terre. La prière, c'est le moyen de réclamer le retour de Jérusalem. Je ne parle pas de Jérusalem ville, même si aussi nous devons prier pour ça, pour la paix de Jérusalem et pour le retour de la gloire de Jérusalem, la ville physique. Mais nous devons prier pour le retour de Jérusalem, la ville spirituelle que chaque chrétien est. C'est important, bien-aimé. comment les gens vont voir Dieu. Ils vont voir Dieu à travers chaque enfant de Dieu. Et c'est ce que nous devons réclamer. Que l'enfant de Dieu montre qui est Dieu. Nous devons réclamer l'amour au milieu des enfants de Dieu. Nous devons réclamer l'unité au milieu des enfants de Dieu. Nous devons réclamer les miracles, la gloire au milieu des enfants de Dieu. Nous devons, en lisant les actes des apôtres, dire « Seigneur, mais nous lisons ça, mais le Seigneur lui-même, il comprend la suite. Et le Seigneur aussi va te répondre. Je me souviens le jour où j'ai dit au Seigneur, mais regarde, les gens, regarde les miracles des actes des apôtres. Il m'avait dit ce jour-là, regarde aussi dans les actes des apôtres, les gens ont tout vendu, ils ont donné tout. Ah, j'étais bloqué. Ce n'est pas que nous appelons les gens à vendre tout, non. Nous appelons les gens à voir cette attitude qui avait amené ces gens-là à vendre leur maison pour que les choses de Dieu avancent. Ce n'est pas la vente de la maison qui compte, c'est qu'est-ce qui les a amenés à faire ça? Parce qu'ils avaient compris que le royaume terrestre est de passage, nous allons au ciel, travaillons pour cela. Ils avaient compris certaines choses qui les avaient poussés à ça. C'est ça que nous demandons. Dans Actes des Apôtres, toujours au verset 4, il est dit que quand ils ont été fouettés par Dieu, par les sacrificateurs, ils étaient contents d'avoir été fouettés à cause du nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons toujours gagner. Gagner. Nous voulons prêcher, chanter, sans être fouettés par les païens, sans être persécutés. Nous voulons que sur tous les tableaux, on dise « on est bon, on est bon, on est bon, on est bon ». Non. En faisant le travail de Dieu, nous serons persécutés, nous serons fouettés. Nous devons en ce moment-là dire « ah, voilà ce que moi je peux donner au Seigneur ». On me rabaisse à cause de son nom. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Il y a des moments où c'est facile. Il y a des moments où c'est difficile. Quand c'est facile, on loue Dieu. Bien-aimés, je ne nous demande pas quand c'est facile de faire des gémissements. Quand c'est facile, on loue Dieu. Quand c'est facile, on décrète les choses. Demain, je veux voir telle chose. Quand c'est facile. Maintenant, quand c'est difficile, c'est là qu'on te dit, mur, lève-toi, gémis devant Dieu. Crie, pleure devant Dieu. Les soldats de la muraille criaient. Crier jusqu'à ce que ça devienne facile. Et quand c'est facile, nous louons, nous glorifions, nous agissons. Et quand ça se complique, nous prions. Quand les gens ont demandé à Jésus, mais pourquoi tes disciples ne prient pas? Jésus dit, ils vont prier pourquoi? Jésus, il était formidable. Il dit, mais ils vont prier pourquoi? Parce que s'ils ont besoin qu'un malade soit guéri, moi j'ai guéri le malade. Ils vont me dire seulement, Seigneur, il y a un malade là, moi je guéris. Ils vont prier pourquoi? Parce que s'ils ont besoin de manger, moi je peux multiplier les pains. Mais aujourd'hui, les gens prient pour prier. Ah non? Il y a des moments où il faut agir. Il faut. Quand Élisée, on lui dit, mais Seigneur, par son serviteur, il y a beaucoup d'ennemis. Il dit, Seigneur, montre-lui. Mais Élisée n'a pas prié pour voir. Il voyait qu'il était bien entouré parce que c'était un homme de prière. Il voyait. Maintenant que lui, il voit qu'il y a des anges qui sont plus nombreux que les ennemis. Vous vouliez qu'il prie, Seigneur, protège-nous. Oh, mais non. Lui, il a vu déjà des anges qui sont en grand nombre. Donc, il agissait. Il disait seulement, bon, je vais les rendre aveugles. Il a appelé les soldats, il les a rendus aveugles. Donc, il agissait parce qu'il voyait son camp est fort. Son camp était fort. Maintenant, quand il y a des moments où c'est la faiblesse qu'on sent, la difficulté qu'on sent, ah ben c'est là qu'on se lamente, on prie, on crie, on pleure, on intercède. On joue le rôle de muraille. Le Seigneur cherche de telles personnes. Bien-aimé, quand on a l'habitude de faire un jeûne facultatif le mercredi et prier, vous croyez, bien-aimé, quelqu'un qui ne pense qu'à répéter l'humanité et qui a tout, va vraiment jeûner. Soit ça va être une trop grande souffrance pour lui. Parce qu'il a déjà tout, il va jeûner, pourquoi? Mais quand quelqu'un est branché au souci de Dieu, quand il voit, vous savez, il faut être dans le souci de Dieu. Quand tu es dans le souci de Dieu, tu vas comprendre que l'homme est très aimé de Dieu. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes que toi tu détestes sans te rendre compte. Pourquoi tu les détestes sans t'en rendre compte? Parce que tu t'occupes pas d'eux. Beaucoup, hein? Tu les vois comme tu regarderais une pierre. Normalement, un enfant de Dieu, je ne dis pas tout le temps, régulièrement, quand il regarde un homme, il doit ressentir quelque chose. Je ne sais pas expliquer. Tu vas ressentir l'amour de Dieu pour cet homme-là. Tu vas ressentir que cet homme ne doit pas être comme ça. Il est de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Un enfant de Dieu n'est pas à l'aise parce qu'il y a une injustice sur la terre. Dieu a tout fait, mais c'est Dieu qu'on critique le plus. C'est Dieu qu'on déteste le plus. Dieu a tout créé, mais on se consacre à tout sauf à lui. C'est une injustice. Ça doit gêner. C'est pourquoi, quand on dit il faut jeûner, de telles personnes peuvent jeûner. Je ne veux pas dire que ça va être toujours facile pour eux, mais leur détresse est si grande qu'ils peuvent jeûner, quoi. Se disent, il faut que Dieu change les choses. Parce qu'ils ne sont pas bien. Quelqu'un qui est malheureux, bah, il jeûne. Il n'est pas bien. Il peut manger comme ça, il n'a pas de goût. Parce qu'il est embêté de voir un humain esclave. J'ai vu quelqu'un de tatoué à la télévision, tout son corps tatoué. Mais non, mais comment l'homme que Dieu a créé peut en arriver là? Quand on voit combien les gouvernements du monde sont en train de berner l'humanité entière, tromper tous les humains, il faut qu'il y ait des bergers aussi du Seigneur, parce que ces gens-là sont des bergers, mais des bergers de Satan. Ils réussissent leur coup. En étant des grands footballeurs, en étant des grands musiciens, en étant des grands savants et des grands présidents, députés, ils réussissent leur coup à tromper les gens et les amener dans l'erreur. Mais il faut qu'il y ait des bergers de Dieu aussi qui réussissent leur coup de chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est-à-dire que là où on pensait que là c'est perdu, quand le berger du Seigneur entre dans cet endroit-là, il sort avec 4 personnes qui étaient dans l'autre camp. Le berger du Seigneur, il prie pour quelque chose. Il sort, bien aimé, on peut obtenir les choses dans la prière. Tu pries et tu sors de la prière avec les choses. Et quand tu parles avec quelqu'un, tu lui dis à l'avance, un tel Dieu va faire telle chose pour lui. Parce que toi, tu as déjà pris ça dans la prière. Parce que Dieu est réel. Mais il cherche qui va prier. Vous savez, quand Jésus, c'est ça notre deuxième texte principal, Matthieu 25, est à Gethsémané, nous sommes dans les temps des difficultés. Il est dans les temps de souffrance, d'angoisse. Et ça peut nous arriver à nous tous. Tellement les choses sont mauvaises autour de nous, on peut être dans l'angoisse et dans la souffrance. Jésus a vécu cela dans Matthieu 25, Il est écrit ceci, Matthieu 25, non, excusez-moi, c'est Matthieu 26, Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Voyez que Jésus qui avait répondu en disant, « Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire comme jeûne et prière, moi je suis là. » Là, Dieu l'a abandonné déjà. Donc Dieu l'a livré plutôt, il n'a pas encore abandonné, il l'a livré aux forces des ténèbres. Il dit, « Faites de lui tout ce que vous voulez. » Jésus sait que il ne peut plus agir, il ne peut que subir, mais il y a encore un recours, c'est quoi? La prière. Ça veut dire que même dans les moments où on sait que Dieu nous a livrés, ce n'est pas total. Il y a encore la prière qui peut changer les choses. Et Jésus le savait. Et en ce moment-là, Jésus se met à prier. C'est pourquoi les gens dans tel moment ne prient pas quand même? Parce qu'ils sont en colère. Se disent, comment Dieu me laisse comme ça? Comment Dieu? Mais quand quelqu'un connaît la vision du Seigneur, qui connaît la pensée du Seigneur, lui, il prie quand même. Parce qu'il sait que Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon. Que c'est le plan de Dieu. C'est quelqu'un qui est souvent en communion avec Dieu. Il sait que tout ça, c'est le plan de Dieu. Même s'il ne sait, il ne comprend pas. On peut toujours pas tout, il y a des moments où on ne comprend pas, mais on se dit, Dieu a un plan merveilleux pour moi. Donc moi, je dois chercher dans quoi il veut m'amener. Dieu n'a pas tort. Et on prie. Et Jésus a dit, mais restez avec moi pour prier. Pour prier. Mais c'est là que les apôtres ont été démissionnaires. Et le Seigneur, il dit, au verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » On voit qu'il est naturel dans sa prière. Ce n'est pas une prière, une litanie, un exercice spirituel où tu répètes beaucoup de choses, blablabla. Non, tu parles clairement. Il dit, mais je suis angoissé par ce qui va m'arriver. Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas changer le plan? Ah non, on ne peut pas changer le plan. Déjà dans Jean 12, il dit, mais est-ce qu'on ne peut pas changer? Il dit, non, moi je suis venu pour ça. Mais il dit, mais Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas changer le plan? Après, il dit, non, on ne peut pas changer le plan. Parce que toute cette humanité va être perdue si moi je change le plan. Non, Seigneur, que ta volonté se fasse. Donc, il peut nous arriver de dire au Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas faire une autre formule? Mais quand tu es de Dieu, tu te dis, non, on ne peut pas faire ça. Vaut mieux la volonté de Dieu. Un jour, je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut faire qu'on sache qu'on est vraiment un vrai chrétien, quoi? C'est que, sans avoir la peur de l'enfer, tu refuses de faire des compromis. Tu ne refuses pas parce que tu as peur d'aller en enfer, mais c'est parce que tu sens que tu deviens quelqu'un d'autre que tu ne veux pas être. C'est là que tu sais que tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas la peur de l'enfer, mais tu sens que il y a quelque chose en toi qui refuse donc d'accepter l'autre système. Tu sens que ce n'est pas pour toi, mais sans avoir peur de l'enfer. Mais c'est comme si Dieu te proposait lui-même d'ailleurs. On a vu ça avec qui? Moïse. Dieu lui a dit, écoute, je te donnerai la terre promise, comme promis, comme prévu, mais je ne vous accompagne plus parce que vous êtes un mauvais peuple. Moïse a dit à Dieu clairement, Si c'est pour avoir la terre promise sans toi, je refuse. Vous voyez, donc Dieu était gentil en lui parlant. Il ne lui a pas parlé méchamment, il a dit, écoute, moi je vais faire ma part. Comme je vous ai promis la terre promise, je vous la donne quand même. Toutefois, vous n'êtes pas des gens avec qui je dois collaborer. Je peux collaborer. Vous êtes méchants. Je vous donne tout ce que j'avais prévu, mais moi, je ne suis plus avec vous. C'est cela, le vrai enfant de Dieu. C'est-à-dire que il y a comme une image où Dieu lui promet, il peut tout avoir, mais sans Dieu, il se sent pas bien. Non pas par rapport à la crainte de l'enfer, mais juste parce qu'il est déjà devenu un enfant de Dieu. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est là, dans des moments difficiles comme ça, où tu sens que on peut quand même te satisfaire, mais tu refuses la satisfaction parce que c'est une satisfaction où il n'y aura pas Dieu dedans. C'est là que tu peux savoir, là je suis devenu un enfant de Dieu. Je ne le savais pas, là je le sais maintenant. Dans le psaume 73, Asaph, qui se plaignait de voir les riches prospérer et les vrais serviteurs de Dieu souffrir. Et il a dit à un moment, j'ai voulu faire comme eux. Il a senti la liberté de vouloir faire comme les gens qui semblent prospérer là. Mais il a dit, ça ne serait pas de la race de tes enfants. Donc, il a senti que c'était pas de, c'est plus sa nature ça. Voilà. Il a eu envie. C'est pas l'envie qui manque. Mais quand il s'est imaginé toute la satisfaction de ces riches et leur vie, il dit, je peux avoir ça, mais je serai sans Dieu. Ce n'est pas pour moi ça. Voilà. Je suis de la race des enfants de Dieu. Ce n'est pas une vie pour moi. C'est là que tu sais que, là, je suis vraiment converti parce que je pouvais, mais j'ai refusé parce que c'est pas de la race des enfants de Dieu. Voilà. On peut me donner tout ça, comme le Seigneur a dit à Moïse, mais ce n'est pas pour moi. Et, c'est ça. Tu peux avoir tous les applaudissements du monde, les acclamations, mais imagine-toi que ça sera sans Dieu. Tu te sens plus bien. Si tu es un vrai enfant de Dieu. Mais si tu t'imagines les applaudissements, les acclamations, les approbations des gens du monde, mais tu ne vois pas Dieu dans ça, mais tu te sens bien quand même, tu n'es pas encore converti. Parce que quelqu'un de converti, c'est quelqu'un, il est quelqu'un d'autre. Tu es quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un d'autre là, tu es un enfant de Dieu. Jésus a reçu les mêmes propositions. Satan lui dit, je te donne les richesses de toute la terre. Le royaume de toute la terre. Jésus lui a dit, mais non, si je le fais, je ne sers plus Dieu. Parce que tu me demandes de me prosterner devant toi pour avoir tout ça. Donc, je vais avoir tout ça, mais sans Dieu. Donc, Jésus a vécu la même chose que Moïse. On lui promet tout, mais sans Dieu. Il dit, ah non, je ne peux pas. J'aime beaucoup le Seigneur. Et Jésus, quand il dit, Père, est-ce que tu peux changer les choses? Mais il sait bien que, ça sera une séparation avec son Père. Il dit, non, que ta volonté s'accomplisse. Parce que la volonté de Dieu assure la présence de Dieu. Assure l'accompagnement de Dieu. Et un vrai enfant de Dieu veut de Dieu. Nous devons réagir. Dis non. Est-ce que je veux de Dieu ou je veux du monde? Si tu veux de Dieu, alors sois dans la muraille, sois le mur et commence à te... Mets-toi à part pour Dieu. Crie. Manifeste ton mécontentement de voir les choses telles qu'elles sont. Et Jésus continue à prier au chapitre 26. Il est écrit, verset 40, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Un enfant de Dieu doit prier sans cesse, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il doit parler régulièrement à Dieu. C'est en parlant à Dieu qu'il atteint la dimension de Dieu, qu'il vit la dimension de Dieu, qu'il atteint le ciel. Il doit parler à Dieu, il doit partager avec lui tout. Et le Seigneur va parler aussi. Et les choses vont se faire comme si tu vois tout à l'avance, parce que Dieu est avec toi, tu es avec lui. Et c'est comme si tout se passait à l'avance, tu vois tout. Les souffrances, il y aura parfois des surprises. Et dans ces surprises-là, tu prieras encore. Dans ces difficultés-là, tu prieras encore. C'est un appel ce soir, bien-aimé, à se lever et à se mettre à part pour Dieu. À dire, je ne veux pas m'arrêter tant que la Normandie n'est pas gagnée pour le Seigneur. Je ne veux pas m'arrêter tant que le Seigneur n'a pas suscité des gens comme Paul, Pierre, Jean, Jacques à notre époque. Je veux parler au Seigneur. Je ne veux lui laisser aucun repos et je ne veux me laisser à moi-même aucun repos. Je veux parler de la France à Dieu. Je veux parler de la France à Dieu. Je veux parler de Jésus à Dieu. Voilà. Ça peut être ton sujet de prière. Tu veux voir le Seigneur dans son action. Et là, tu parles à son père. Tu dis, mais alors, ton fils a souffert à la croix pour que nous, le résultat, nous soyons médiocres. Non. Ton fils a souffert à la croix, c'est écrit dans Isaïe 53, afin d'avoir une postérité par nous qui fera la joie de son âme. Où est la joie de l'âme du Seigneur? Le Seigneur cherche des gens qui vont faire de tout ça leur sujet de prière et être sur la muraille. Parler face à face. Et bien aimé, sachez-le, Dieu ne se renie jamais. Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu. Par les prières, nous aurons des royaumes. Quand je dis des royaumes, ce n'est pas pour être président, hein. Ce n'est pas pour être riche. Spirituellement, nous régnerons, nous changerons des humains, nous libérerons des captifs, nous sauverons des satanistes. Philippiens 2 s'accomplira, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ça ne veut pas dire que tout le monde se convertira, mais les gens reconnaîtront que Jésus est plus grand. Parce que même à la croix, le centenier romain reconnaît que Jésus était grand. Quand Jésus a prié comme ça, tout était gagné. Bien-aimé, la difficulté de Jésus, c'était à Gethsémané. Ça ne veut pas dire la souffrance. La souffrance, c'était tout le temps. Mais la difficulté, parce qu'on peut souffrir et être fort. Mais la difficulté, c'était à Gethsémané. Là, il a hésité, il a dit, est-ce qu'on peut changer le plan? C'était là. Et il a prié. Il y a même du sang qui est sorti avec sa sueur. C'était la souffrance, maltraité, brisé, avec l'envie. Vous savez, là, il n'a pas encore vu les soldats venir, physiquement. Mais quelle envie il devait avoir là, dire, ah, si ces gens-là viennent, je fais seulement comme ça, tout le monde meurt. Mais il fallait contenir cette envie-là. Il fallait dire, bon, c'est Dieu qui va régler la situation. Bien-aimés, on a toutes sortes d'envies d'agir. Mais Dieu nous prévient que notre action là ne résoudra pas le problème de l'humanité. C'est son action à lui. D'où le recours à la prière. D'où le recours à ressasser toutes les promesses du Seigneur et à les lui représenter encore. Dit, mais voilà. Comme Gédéon, ben voilà. Nous ne voyons pas ça. D'où faire partie du mur, de la muraille, pour embêter le Seigneur jusqu'à ce que ça change. J'ai bien dit, jusqu'à ce que ça change. Siméon, dans Luc, il a embêter le Seigneur pour voir la consolation du Seigneur à cause de ça. Est-ce que peut-être c'est à cause de Siméon que Dieu a envoyé Jésus à ce moment-là? On ne sait pas. Parce qu'il est dit que il attendait la consolation de Dieu, donc il devait être le mur de l'époque. Il disait à Dieu, mais voilà, voilà ce qu'est devenu ton peuple. Voilà. Et il criait à Dieu, et Dieu lui a promis, tu ne mourras pas avant de voir la consolation. Ah, c'est beau, hein? Quand Dieu répond, bien-aimé, c'est extraordinaire. Et donc, Siméon, maintenant, avait déjà reçu sa réponse. Il est écrit que Dieu lui avait promis qu'il ne mourra pas avant de voir le Seigneur, la consolation d'Israël. Donc, Siméon, sa vie était devenue une vie heureuse, malgré la tristesse qui l'environnait, la souffrance, le péché qui l'environnait. Il savait que le Messie est en route. Et quand il arrive au temple, l'Esprit lui indique, c'est le bébé là. Quelle joie! Nous connaissons le texte de Siméon. Nous allons lire ça. Il faut imiter nos prédécesseurs. Dieu les a placés là pour qu'on les imite. Luc, au chapitre 2. Il est écrit ceci, verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Amen. Siméon a vu le salut. Il dit, maintenant je peux mourir. Il n'a pas cherché comme nous aujourd'hui à vouloir participer au succès. Il y a des gens qui veulent que ça se passe avec eux. Non, nous avons tous chacun son plan avec Dieu. Lui, il a prié, le Messie est arrivé, il s'est dit, je peux m'en aller. Les grandes choses vont se faire maintenant. Mon peuple va être visité. C'était ça qui importait pour lui. Le plan de Dieu va s'accomplir. Jésus, quand il a prié à Gethsémané, il savait que c'est lui qu'on allait quoi? Qu'on allait taper. Il savait que c'est lui sur qui on allait cracher. Il savait que c'est sur lui qu'on allait mettre les clous. Mais il savait que ça ouvrait le lieu très saint, tout ça. Ça ouvrait le chemin du Saint-Esprit et les choses n'allaient plus être les mêmes sur la terre. Mais maintenant, avec tout ça, nous, on a le Saint-Esprit. Nous devons crier plus fort encore pour dire, ah non, le Seigneur a déjà tout accompli à la croix. Maintenant, notre Dieu, nous voulons te voir en action. Nous devons l'embêter jusqu'à ce que ça change. Changeons notre vision de Dieu, des choses de Dieu, de la vie. Changeons cela, sinon nous sommes comme des animaux. Comme des païens, changeons cela. La prière, c'est ça notre vie. Et quelle prière! Le Seigneur, quand il a prié, c'était difficile. Mais il parlait des choses vraies. Et quand il a fini de prier, il est dit qu'un ange est venu le soutenir. Siméon a prié, il est dit que le Saint-Esprit est venu lui parler. Que tout va bien se passer maintenant, le Messie est sur la route. Et il était bien. Jésus, quand on lui a dit ça, il a su que tout était réglé. Il allait tenir. L'ange est venu le fortifier. Il dit, bon, je vais aller jusqu'à la croix. Tout va bien se passer. On va m'injurier, on va me cracher dessus, mais le Seigneur m'accompagnera. Mais il a obtenu tout ça comment? En priant. Tout c'est Il a reçu ça en priant. Quand il a prié, l'ange est venu. On lui a dit, maintenant, c'est clair. Ça se passera bien. Tu peux y aller. Et donc, quand on crachait sur lui, il n'a pas réagi. Et quand on l'injuriait, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils savent pas. Parce que là, l'esprit est sur lui. Il l'accompagne. Tout est réglé maintenant. Voilà. Parce qu'il a prié. Nous devons prier. Un moment, le Seigneur va te dire, c'est réglé. C'est fait. Et là, quand tu sors, tu es une autre personne. Mais nous ne devons pas nous laisser aller lorsqu'il y a les persécutions, les souffrances, les difficultés, à sombrer dans le découragement et dans la perte de foi. Nous devons nous relancer en priant comme le Seigneur, en priant comme Siméon, en priant comme Daniel, en priant comme Josaphat quand ils étaient menacés, en priant comme Ézéchias. À chaque fois, il y avait des menaces, de grosses menaces. Ils ont déchiré le vêtement, ils ont jeûné, ils ont prié, ils se sont lamentés, ils ont crié. Et Dieu a changé les choses. Dieu peut changer les choses. On ne peut pas vivre comme ça tout le temps. Ou dans toutes les corporations, il n'y a pratiquement pas de représentants chrétiens. Au milieu des députés, il n'y en a pas. Au milieu des avocats, il n'y en a pas. Non, il faut que... Dieu qui a dit, je suis venu chercher à sauver ceux qui étaient perdus, mais qu'on voit ce verset s'accomplir dans toutes les corporations, dans tous les milieux hospitaliers, partout, dans tous ces milieux-là, Luc 19, 10 doit s'accomplir. Mais nous devons le dire au Seigneur, parce que nous devons dire au Seigneur, Seigneur, en quelque sorte, tu veux dire que ceux qui peuvent être sauvés, que ce n'est que les pauvres alors. Où est Luc 19, 10? Au milieu des gens qui font le football en France, où il faut qu'on lui parle. Il veut que le mur s'élève, la muraille crie. Mais ça demande de changer de vision. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Toi ce soir, nous voulons voir les choses changer. Comme les disciples ont prié dans l'Acte des Apôtres au chapitre 4, ils ont dit, Seigneur, pourquoi tout le monde est contre toi? Pourquoi tout le monde dit du mal de toi? Pourquoi les gens s'agitent? Seigneur, nous prions qu'en ton nom, Seigneur Jésus, tu accomplisses des merveilles, des miracles. Tu transformes des humains pour qu'ils soient des lampes, pour qu'ils soient des flambeaux, pour qu'ils soient des colonnes de vérité dans ce monde qui se perd. Où les gens ne connaissent plus les repères, Seigneur. Où les gens pensent que la solution, c'est dans l'écologie. La solution, c'est dans le végétarisme. Seigneur, nous voulons que toi, tu montres que la solution, c'est toi, parce que c'est toi le Créateur. Seigneur, suscite des gens. Oh Seigneur, nous voulons expérimenter ce qui est écrit. Tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Là où nous travaillons, Seigneur. Là où nous vivons. Là où nous achetons des choses, Seigneur, tu es venu chercher dans tous ces endroits ce qui était perdu. Là où, Seigneur, il y a nos dirigeants politiques, là où il y a les dirigeants économiques, Seigneur, tu es venu pour l'homme. Tu n'es pas venu pour une caste quelconque, une corporation quelconque. Tu es venu pour tous, Seigneur. Nous voulons voir cette grâce clairement exposée à tous, afin que le choix de chacun soit un choix clair, Seigneur. Pas un choix flou à cause du fait qu'il n'y a pas des éléments de grâce en face, Seigneur. Nous voulons voir les éléments de grâce se répandre. Nous voulons voir des chrétiens se contenter de t'aimer au lieu de chercher les richesses de la terre, au lieu de chercher les répétitions de la terre. Seigneur, tu as dit chercher d'abord le royaume des cieux. Nous voulons voir des gens qui s'occupent du royaume des cieux et qui te laissent gérer le reste, Seigneur. Car tu es fidèle et bon. Avec toi, nous ne manquerons de rien, Seigneur. Nous voulons voir les choses changer, Seigneur. Alléluia.